Guerre et paix. Première partie, chapitre 3, scène 17. À 9h du matin, au flanc droit que commandait Bagration, l'affaire n'était pas encore engagée. Malgré l'insistance de Dolgoroukov, désireux de n'en point assumer la responsabilité, il lui proposa d'envoyer demander les ordres du général en chef. Vu la distance de diverses qui séparait les deux ailes de l'armée, l'envoyé, s'il n'était pas tué, ce qui était peu probable, et s'il parvenait à découvrir le général en chef, ce qui était très difficile, ne pourrait en revenir avant le soir. Il en était bien convaincu. Jetant un regard sur sa suite, les yeux endormis et sans expression de Bagration s'arrêtèrent sur la figure émue, presque enfantine de Rostov. Il le choisit.
« Et si je rencontre Sa Majesté avant le général en chef, Excellence ?»
lui dit Rostov.
« Vous pourrez demander les ordres de Sa Majesté, »
dit Dolgoroukov en prévenant la réponse de Bagration. Après avoir été relevé de sa faction, Rostov avait dormi quelques heures et se sentait plein d'entrain, d'élasticité et de confiance en lui-même et en son étoile, et prêt à tenter l'impossible. Ses désirs s'étaient accomplis. Une grande bataille se livrait. Il y prenait part, et de plus, attaché à la personne du plus brave des généraux. Il était envoyé en mission auprès de Kutuzov, avec chance de rencontrer l'empereur. La matinée était claire, son cheval était bon. Son âme s'épanouissait toute joyeuse. Longeant d'abord les lignes immobiles des troupes de Bagration, il arriva sur un terrain occupé par la cavalerie d'Ouvarov. Il y remarqua les premiers signes précurseurs de l'attaque. L'ayant dépassé, il entendit distinctement le bruit du canon et les décharges de mousqueterie qui augmentaient d'intensité à chaque instant. Ce n'était plus un ou deux coups solitaires qui retentissaient à intervalles réguliers dans l'air frais du matin, mais bien un roulement continu, dans lequel se confondaient les décharges d'artillerie avec la fusillade qui se répercutait sur le versant des montagnes, en avant de Pratzen. De légers flocons de fumée, voltigeants, se poursuivaient l'un l'autre, s'échappaient des fusils, tandis que des batteries s'élevaient de gros tourbillons de nuages qui se balançaient et s'étendaient dans l'espace. Les baïonnettes des masses innombrables d'infanterie en mouvement brillaient à travers la fumée et laissaient apercevoir l'artillerie avec ses caissons verts qui se déroulaient au loin comme un étroit ruban. Rostov s'arrêta pour regarder ce qui se passait. Où allait-il? Pourquoi marchait-il en tous sens, devant, derrière? Il ne pouvait le comprendre. Mais ce spectacle, au lieu de lui inspirer de la crainte et de l'abattement, ne faisait au contraire qu'augmenter son ardeur.
« Je ne sais ce qui en résultera, mais à coup sûr ce sera bien »,
se disait-il. Après avoir dépassé les troupes autrichiennes, il arriva à la ligne d'attaque. C'était la garde qui donnait.
« Tant mieux, je le verrai de plus près. »
Plusieurs cavaliers venaient à lui en galopant. Il reconnut les Uhlans de la garde, dont les rangs avaient été rompus et qui abandonnaient la mêlée. Rostov remarqua du sang sur l'un d'eux.
« Peu m'importe, »
se dit-il. À quelques centaines de pas de là, il vit arriver à grand trot sur sa gauche, de façon à lui couper la route, une foule énorme de cavaliers, aux uniformes blancs et scintillants, montés sur des chevaux noirs. Lançant son cheval à toute bride, afin de leur laisser le champ libre, il y serait certainement parvenu si la cavalerie n'avait pressé son allure. Il la voyait gagner du terrain et entendait le bruit des chevaux et le cliquetis des armes se rapprochait de plus en plus de lui. Au bout d'une minute à peine, il distinguait les visages des cavaliers gardes qui allaient attaquer l'infanterie française. Ils galopaient tout en retenant leur monture. Rostov entendit le commandement « Marche !» donné par un officier qui lançait son pur sang-ventre à terre. Craignant d'être écrasé ou entraîné, Rostov longeait leur front au triple galop, dans l'espoir de traverser le terrain qu'il avait en vue avant leur arrivée. Il craignait de ne pouvoir éviter le choc du dernier chevalier garde, dont la haute taille contrastait avec sa frêle apparence. il aurait été immanquablement foulé aux pieds, et son bédouin avec lui, s'il n'avait eu l'heureuse inspiration de faire siffler son fouet devant les yeux de la belle et forte monture du chevalier garde. Elle tressaillit et dressa les oreilles. Mais à un vigoureux coup d'éperon de son cavalier, Bédouin, relevant la queue et tenant le cou, s'élança encore plus rapide. À peine Rostov les avait-il distancés qu'il entendit crier « Hurrah !» et, se retournant, il vit les premiers rangs s'engouffrer dans un régiment d'infanterie française aux épaulettes rouges. L'épaisse fumée d'un canon invisible les déroba aussitôt à sa vue. C'était cette brillante et fameuse charge des chevaliers gardes, tant admirée des Français eux-mêmes. Avec quel serrement de cœur n'entendit-il pas raconter plus tard que de toute cette masse de beaux hommes, de toute cette brillante fleur de jeunesse, riche, élégante, montée sur des chevaux de prix, officiers et junkers qu'il avait dépassés dans un galop furieux, il ne restait que 18 hommes.
« Mon heure viendra, je n'ai rien à leur envier »,
se disait Rostov en s'éloignant.
« Peut-être vais-je voir l'empereur ?»
Atteignant enfin notre infanterie de la garde, il se trouva au milieu des boulets qu'il devina plutôt qu'il ne les entendit, en voyant la figure inquiète des soldats et l'expression grave et plus contenue des officiers. Une voix, celle de Boris, lui cria tout à coup.
« Rostov, qu'en dis-tu? Nous voilà aux premières loges. Notre régiment a été rudement engagé. »
Et il souriait de cet heureux sourire de la jeunesse qui vient de recevoir le baptême du feu. Rostov s'arrêta.
« Eh bien, et quoi ?»« Repousser, »
répondit Boris, devenu bavard. Et là-dessus, il lui raconta comment la garde, voyant des troupes devant elle et les ayant prises pour des Autrichiens, le sifflement des boulets leur avait prouvé aussitôt qu'ils formaient la première ligne et qu'ils devaient attaquer.
« Où vas-tu ? »
lui demanda Boris.
« Trouver le commandant en chef. Le voilà !»
lui répondit Boris en lui indiquant le grand-duc Constantin à 100 pas d'eux, en uniforme de chevalier garde, la tête dans les épaules, les sourcils froncés, criant et gesticulant contre un officier autrichien, blanc et blême.
« Mais c'est le grand-duc, et je cherche le général en chef ou l'empereur, »
dit Rostov en s'éloignant.
« Comte, comte !»
lui cria Berg, en lui montrant sa main enveloppée d'un mouchoir ensanglanté.
« Je suis blessé au poignet droit, et je suis resté à mon rang. Voyez, comte, je suis obligé de tenir mon épée de la main gauche. Dans ma famille, tous les von Berg ont été des chevaliers. »
Et Berg continuait à parler que Rostov était déjà loin. Franchissant un espace désert, pour ne pas se trouver exposé au feu de l'ennemi, il suivit la ligne des réserves en s'éloignant par là du centre de l'action. Tout à coup, devant lui et sur les derrières de nos troupes, dans un endroit où l'on ne pouvait guère supposer la présence des Français, il entendit tout près de lui une vive fusillade.
« Qu'est-ce que cela peut être ? »
se demanda-t-il.
« L'ennemi sur nos derrières, c'est impossible !»
Et une peur folle s'empara de lui à la pensée de l'issue possible de la bataille.
« Quoi qu'il en soit, il n'y a pas à l'éviter. Il faut que je découvre le général en chef, et si tout est perdu, il ne me reste qu'à mourir avec eux. »
Le noir pressentiment qu'il avait envahi se confirmait à chaque pas qu'il faisait sur le terrain occupé par les troupes de toutes armes derrière le village de Pratzen.
« Que veut dire cela? Sur qui tire-t-on? Qui tire ?»
demandait Rostov en rencontrant des soldats russes et autrichiens qui fuyaient en courant pêle-mêle.
« Le diable sait ce qu'il en est! Il a battu tout le monde! Tout est perdu !»
lui répondirent en russe, en allemand, en tchèque, tous ces fuyards, comprenant aussi peu que lui ce qui se passait autour d'eux.
« Qu'ils soient rossés, ces Allemands! « Que le diable les écorche, ces traîtres !»
répondit un autre.
« Que le diable emporte les Russes !»
grommelait un Allemand. Quelques blessés se traînaient le long du chemin. Les jurons, les cris, les gémissements se confondaient en un écho prolongé et sinistre. La fusillade avait cessé, et Rostov apprit plus tard que les fuyards allemands et russes avaient tiré les uns sur les autres.
« Mon Dieu !»
se disait Rostov.
« Et l'empereur qui peut d'un moment à l'autre voir cette débandade. Ce ne sont que quelques misérables, sans doute. Ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Il faut les dépasser au plus vite.
La pensée d'une complète déroute ne pouvait lui entrer dans l'esprit, malgré la vue des batteries et des troupes françaises sur le plateau de Pratzen. Sur le plateau même où on lui avait enjoint d'aller trouver l'empereur et le général-chef.